Nous accueillons maintenant notre premier invité, Benoît Allaire. Bonsoir.
Bonsoir Jean.
Vous êtes ténor et chef d'orchestre de la chapelle Rhénane et vous venez avec donc cette double casquette d'interprète exécutant et de chef. Vous venez nous présenter donc la Passion sans Saint-Matthieu de Bach. Et comment peut-on appréhender ces deux rôles différents? Puisque même dans certains de vos concerts, vous étiez les deux.
Absolument, oui, c'est vrai que ce n'est pas une chose singulière. Finalement, beaucoup de musiciens, interprètes ont créé leurs ensembles, en particulier dans le milieu baroque. C'est vrai que c'est une espèce de prolongation naturelle de ce métier, et c'est une qualité de pouvoir montrer aux musiciens, de donner l'exemple, et l'exemple de la voix est évidemment particulièrement parlant quand il s'agit de musique baroque. Là, en l'occurrence, c'est vrai que pour ce concert de la Passion selon Saint-Matthieu, je me contenterai de diriger, ce qui sera déjà une assez lourde tâche, étant donné que nous serons quand même 50 musiciens. C'est une passion à double chœur et double orchestre, double équipe de solistes. Donc 50 musiciens de la chapelle Rhénane qui seront eux-mêmes renforcés par un chœur d'amateurs, formé autour du chœur Motus de Clotilde Gabory, qui seront entre 60 et 70. Et évidemment, il faut aussi pour la Saint-Matthieu un chœur d'enfants. Que nous avons trouvé avec trois classes de CM2 de l'école Jean Fichard à la Méno, qui sont dirigées et préparées par Jean Moissonnier.
L'effectif est une chose importante pour l'interprétation. On a toujours deux écoles en fait dans les interprétations, des effectifs nombreux et des effectifs plus restreints. Donc vous avez choisi plutôt des effectifs
plutôt restreints variables. Mais variables, effectivement, c'est-à-dire que le chœur d'adulte va incarner finalement l'assemblée qui chante cette espèce de conscience populaire, au sens noble bien sûr. Qui s'incarne dans les chorales de l'heure. Donc originellement dans le sens liturgique, c'est les moments où l'assemblée participe en chantant à la liturgie, à l'office. Et le chœur qui va interpréter le reste des passages chorales de l'œuvre, c'est uniquement la chapelle Rhénane, mais ça fait quand même déjà là aussi, puisque il s'agit d'un double chœur, ce sera 16 chanteurs, donc 8 par chœur.
Est-ce qu'il y a vraiment une différence, évidemment, une différence dans l'écriture, des chorales et dans l'écriture des airs pour chœur? Est-ce qu'il y a aussi vous cherchez aussi une couleur différente dans les groupes différents?
Évidemment, chacune de ces fonctions chorales sont différentes. Le chœur, donc j'ai parlé avant des chorales. Le chœur, le petit chœur, donc à 16, interprète tour à tour les disciples, le grand conseil des Juifs, les gardes romains qui entourent Jésus lors de la crucifixion. Enfin voilà. Il y a plein de fonctions différentes, effectivement, en fonction du récit, comment évolue le récit. Et puis, il y a aussi des moments comme le chœur d'entrée, le chœur final, qui sont simplement des grandes fresques et qui visent à introduire l'œuvre, à la placer dans un contexte, à nous placer, nous, auditeurs, dans une émotion particulière. Donc, effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a tous ces différents types de chœurs qui coexistent, qui cohabitent dans la passion, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions. Et puis, par ailleurs, il y a évidemment cette grande dualité entre le niveau du récit lui-même, donc les événements, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se déroule, quelle est l'action, et qui peuvent donner finalement, ce niveau peut donner l'impression qu'on est dans un opéra, parce qu'il y a vraiment une action et qu'elle est passionnante et qu'elle est intrigante, qu'elle est complexe. Et puis, il y a tout le niveau de la réflexion, c'est-à-dire comment nous, aujourd'hui, ou de tout temps, finalement, et de tout pays, on se positionne. Comment est-ce qu'on reçoit ce récit? Comment est-ce qu'on l'interprète? Comment est-ce qu'il rejaillit sur nous? Qu'est-ce qu'il nous fait comme effet? Qu'est-ce qu'il provoque comme émotion? Et c'est justement la cohabitation de ces deux niveaux qui est, à mon sens, passionnante dans une œuvre comme La Passion.
Donc la différenciation des chœurs permet une meilleure compréhension au final.
Oui, entre autres, effectivement, il y a ces deux niveaux qui cohabitent. C'est compliqué à expliquer, finalement, les niveaux du récit, le niveau de l'interprétation, de la sublimation de ce récit. Mais effectivement, tout ça, c'est variable aussi en fonction des différentes distributions, des effectifs qui évoluent sans cesse. C'est difficile à expliquer à un micro. Je pense que c'est beaucoup plus simple, finalement, quand le chef et les musiciens ont fait ce travail d'analyse et qu'ils peut ensuite rejaillir de manière spontanée et simple et évidente, je dirais, lors d'un concert, comme j'espère que ce sera le cas mercredi.
N'est-ce pas ? Est-ce que vous avez déjà donné la Passion selon saint Matthieu ?
Oui, on a créé en fait une première fois notre version de la Saint-Matthieu en 2009 dans le cadre de notre résidence à Royaumont, à l'abbaye de Royaumont. Avant ça, la chapelle Rhénane se consacrait surtout finalement à Monteverdi à Schütz, qu'elle n'a jamais cessé de faire entre-temps. Et l'idée de cette résidence à Royaumont de 2007 à 2009, c'était de faire une espèce de transition entre ce répertoire du premier baroque vers ce qui m'a toujours attiré par ailleurs, évidemment. C'est l'œuvre de Bach. Et on a d'abord fait Membraies uno street Buxtehude, qui a aussi donné lieu à un beau disque avec la maîtrise de Colmar. Et puis ensuite, on s'est intéressé aux cantates profanes pour pas tout de suite passer aux très très grandes œuvres. Et puis en 2008, c'était la Saint-Jean qui est édité aussi en disque. Et en 2009, la Saint-Matthieu, donc créée à l'abbaye de Royaumont.
Mais la Saint-Matthieu n'a pas fait l'objet d'un enregistrement.
Non, alors effectivement. Vu l'état de l'industrie discographique entre-temps, produire un disque avec 50 interprètes dans les conditions que je considère nécessaires, c'est-à-dire au moins 5 jours d'enregistrement, ça devient un pari extrêmement compliqué à tenir.
Et l'exercice de l'enregistrement est différent ?
Complètement différent de l'exercice du concert. Pour moi, l'exercice du concert, le moment du concert, c'est justement un moment. C'est quelque chose qui fait jaillir une énergie extrêmement variée, parfois un peu brouillonne aussi, mais tellement authentique, tellement forte. C'est ça qui doit toucher lors d'un concert, à mon sens. On a une proximité réelle avec le public, c'est ça qui est important. Le disque est absolument passionnant aussi, mais c'est pas du tout la même démarche. Un disque, c'est une somme de moments parfaits, mais d'instants parfaits. C'est pas l'énergie de 2 heures de concert, ou 3 heures, ou 1 heure. C'est une somme de moments enregistrés, parfaits, assemblés. C'est une mosaïque dans un certain sens. Très intéressant aussi pour parfaire le travail d'un ensemble et son esthétique musicale. Je crois vraiment à l'objet du disque aussi comme essentiel dans le parcours d'un ensemble. Et d'ailleurs, je pense que s'il est bien réalisé, il peut être extrêmement agréable à écouter et surtout à réécouter. C'est ça le problème. Un disque, il faut pouvoir le réécouter. Et c'est pour ça qu'il doit être parfait aussi esthétiquement.
Et c'est pas la même adrénaline non plus par rapport à un concert.
Ah non, c'est effectivement beaucoup plus une course de fond. Un enregistrement, c'est au moins 3 jours, à moins de faire un live. Mais dans ce cas, pour moi, la forme du live enregistré, je l'ai fait aussi 1 ou 2 fois. Ça me semble assez peu efficace. Effectivement, un enregistrement, ça doit durer 3 à 7 jours. Et là, ben, c'est une course de fond. Il faut tenir la distance. Il faut trouver l'énergie à chaque fois, très momentanée, pour aller très loin, à la fois dans la performance musicale et technique.
C'est une interprétation, une réinterprétation différente.
C'est effectivement chercher à sans arrêt renforcer et parfaire l'interprétation à travers tous les petits moments qu'on essaye de faire au mieux.
On pourrait... L'étude finalement d'une interprétation sur un enregistrement studio serait quelque chose de complètement différent d'une...
À mon sens, oui, on n'arrivera jamais à atteindre l'esthétique et la plasticité d'un enregistrement lors d'un concert. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ça ne me semble même pas souhaitable. Pour moi, le moment du concert doit témoigner d'une humanité et donc d'une imperfection. Le disque ne peut pas se permettre ce phénomène d'imperfection. Il doit être parfait parce qu'il doit être soumis, parce qu'il est soumis à la réécoute et que c'est sa vocation d'être écouté souvent.
Tout à fait. Et donc... on en revient donc à ce concert, on a déjà parlé donc des effectifs des chœurs, mais donc il y a aussi les effectifs des solistes. Et donc quels seront vos solistes pour ce cette production.
Alors là aussi, il y a deux types de solistes. Il y a ceux qui interviennent, et ils sont nombreux dans le récit lui-même, dans l'histoire, et ils sont passionnants parce que ils sont tous d'une certaine manière représentatifs de ce qu'est l'âme humaine. Il y a Jésus, il y a Pilate qui le juge, mais en même temps qui se pose beaucoup de questions sur quel est ce personnage. Il est très intrigué. Il y a Judas, dont on considère finalement dans l'histoire de l'Église que c'est le paragon du traître, mais en même temps, on sait que c'était un disciple très proche de Jésus. Pour quelle raison cet acte de trahison a été motivé? Est-ce que c'était pas le fruit d'une entente? Ou est-ce qu'il n'y avait pas des facteurs extérieurs qui ont entraîné ce geste? Est-ce que c'était pas un passage nécessaire, finalement, pour la mission que Jésus s'était donnée? Il y a Pierre aussi, qui renie. Il y a la foule, donc j'en ai parlé avant, effectivement, mais elle est aussi très caractéristique suivant les passages, tantôt cruelle, tantôt dénigrante, tantôt affectueuse, enfin voilà, suivant les personnages et le moment de l'histoire. Donc ça, c'est tous ces personnages de l'histoire, du récit, et puis il y a effectivement tous ceux qui vont exprimer ensuite, et c'est souvent les mêmes, mais pas dans le même niveau de l'œuvre, tous ceux qui vont exprimer cette analyse et le ressenti de l'âme humaine, finalement, à la lecture du récit. Alors concrètement, les solistes sont nombreux, je suis même pas sûr d'arriver à me souvenir de tous, mais je vais quand même essayer. Asna Benani et Aurore Bucher vont se partager les parties de soprano. Paul-Antoine Benos, contre-ténor, et Salomé Allaire se partageront les parties d'alto. En ténor, c'est un jeune chanteur qui est encore au Conservatoire National Supérieur de Danse et de Musique de Paris, qui s'appelle Paco Garcia, qui va faire ses débuts dans cette œuvre. Notre évangéliste, le deuxième ténor, est Daniel Schreiber, oui, c'est ça, qui est allemand, ça tombe bien pour un rôle où on a quand même beaucoup besoin de texte. Un collègue qui a déjà chanté d'ailleurs la messe en si en 2015 dans le cadre de notre saison à Strasbourg. Guillaume Worms chantera la partie de Jésus, également un jeune chanteur absolument passionnant et une voix magnifique. Et Mathieu Lécroire qui interprétera le rôle de Pilate et les airs.
Bah, très bien. Donc, quand est-ce qu'on pourra et où pourrons-nous entendre
ce
concert ?
Alors, c'est le mercredi 28 mars à 20h. À l'église Saint-Paul de Strasbourg. Et on attend beaucoup de public, c'est-à-dire on espère que vous serez nombreux à venir nous écouter, étant donné l'ampleur de l'événement et toute l'énergie que je déploie avec l'équipe de la Chapelle Rhénane. Et là, je pense pas seulement aux musiciens, mais aussi au personnel administratif et en particulier aux bénévoles qui s'investissent depuis de longs mois dans l'organisation de l'événement, aussi bien la logistique des musiciens, mais aussi la logistique du concert lui-même. C'est une sacrée aventure de faire venir 500 chaises pour compenser l'absence de bancs suffisants dans l'église, organiser un surtitrage pour que tout le monde puisse en bénéficier au maximum, compte tenu du fait que Christian Peukert, comme d'habitude, fera une création lumière et que on a vraiment fait en sorte que ce soit intéressant et que ça renforce le récit et cette soirée. Voilà, donc venez nombreux. Il y a des tarifs vraiment pas chers pour ce concert et des tarifs adaptés à tous les âges. La Chapelle Rhénane réfléchit pour sa saison prochaine à adopter une nouvelle tarification qui serait à mon sens révolutionnaire. Mais en tout cas, c'est pour dire que la question de l'équilibre financier de ce genre d'opération qui sont des concerts en autoproduction, évidemment, la Chapelle Rhénane est subventionnée, mais en aucun cas ces subventions ne peuvent suffire à couvrir les coûts énormes de cet événement. Voilà, donc on espère très franchement et très sincèrement une église comble, et je pense que vous ne le regretterez pas.
Et où retenir ces places alors ?
Alors, la billetterie est sur le site de la Chapelle Rhénane. Vous tapez Chapelle Rhénane sur Google et vous tombez directement sur la page d'accueil de notre site, et la billetterie est facilement trouvable dans un coin de la page, même assez au centre. Et voilà, donc soit sur notre site internet, soit à la caisse du soir, un mode qui n'est pas forcément à privilégier en cas d'affluence. Je précise que on peut réserver des places, c'est-à-dire des billets, mais pas des places, c'est-à-dire que l'église n'est pas numérotée, donc il ne faut pas venir trop tard non plus.
Très bien. Et donc pour terminer cette interview, qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire entendre ?
Alors justement, on en parlait tout à l'heure de cette création de 2009 de notre version, qui évidemment aura encore évolué d'ici cette année. Mm-hmm. J'ai eu envie de proposer aux auditeurs un petit résumé finalement, peut-être plus facile à comprendre que toutes mes longues explications sur les différents niveaux. Dans la deuxième partie, donc l'œuvre est en deux parties, une qui originellement était avant la prédication, et la deuxième après. Et la deuxième partie est construite de manière symétrique, avec au milieu l'air le plus important, et paradoxalement, cet air est sans basse continue. C'est-à-dire la basse continue, c'est quand même le fondement même de la musique baroque. Et donc, voilà, on va entendre tour à tour le chœur qui incarne le peuple, qui dit à Pilate « crucifie-le ». Ensuite, le choral, donc, qui va réflecter cette pensée en disant « mais comme cette condamnation est étrange ». Et puis ensuite, l'air de soprano qui dit « il a répandu ses bienfaits sur nous tous, il a donné la vue aux aveugles, il a fait marcher les paralysés, etc. etc. » Une accumulation de choses positives. À part ça, il n'a rien fait de mal. Et puis l'air central dont il s'agit, c'est « aus Liebe will mein Heiland sterben », « c'est par amour que mon sauveur veut mourir, du péché il ne connaît rien ». Etc. Et on finira avec la reprise du chœur qui ignore totalement ce niveau de l'œuvre et qui continue à dire qu'il soit crucifié.
Nous écoutions quelques extraits de La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, un enregistrement live au Festival de l'Abbaye de Royaumont, le vendredi 2 octobre 2009, par la Chapelle Rhénane sous la direction de Benoît Allaire, que nous avions comme premier invité dans cette émission, avec Chiara Skerat, soprano, Julian Prégardien, ténor, et Eckhart Abélé, baryton.